Chapitre 3. Richard repoussa en arrière son lourd fauteuil de bois dont les pieds grincèrent sinistrement sur le sol de pierre. Puis il se leva d'un bond, les doigts reposant sur le bord de la table où l'ouvrage qu'il consultait resta grand ouvert sous la pâle lumière du réflecteur en argent. Quelque chose n'allait pas avec l'air. Pas à cause d'une odeur, ni d'une augmentation de la température, ni de l'humidité ambiante, même si la nuit était chaude et étouffante. C'était l'air lui-même qui avait un problème. Quelque chose clochait terriblement. Richard aurait été bien en peine de dire pourquoi il avait une idée pareille. Qu'est-ce qui pouvait le faire penser que l'air n'était pas comme il aurait fallu? Comme il n'y avait aucune fenêtre dans la petite salle de lecture, il ignorait quel temps il faisait dehors. Clair, orageux, venteux. On était très tard dans la nuit, voilà tout ce qu'il savait. Derrière lui, Cara s'était également levée du confortable fauteuil en cuir dans lequel elle travaillait aussi. Elle attendait en silence, prête à tout. Richard lui avait demandé de lire plusieurs ouvrages historiques. Tout ce qui était contemporain du grimoire intitulé « La chaîne de flammes » pouvait se révéler utile, et la mort de Cite ne s'était pas plainte de cette corvée. Cela dit, elle protestait rarement, disposée à tout faire tant que ça ne l'empêchait pas de protéger son seigneur. Puisqu'elle pouvait se livrer aux recherches en compagnie de Richard, être promue documentaliste ne la dérangeait pas. Une autre mort de Cite, Burdin, pouvait déchiffrer le haut d'Aran, et elle avait grandement contribué à la traduction de quelques ouvrages rares et importants. Mais pour l'heure, elle était très loin de là, au palais du peuple, et Cara la remplaçait plutôt brillamment. Sous l'œil attentif de sa garde du corps, le sourcier regarda autour de lui, sondant les murs lambrissés. Son regard passa très vite sur les diverses étagères lestées d'objets décoratifs. De petites boîtes laquées aux incrustations en argent, des statuettes de danseurs taillées dans de l'ivoire ou de l'os, des pierres précieuses nichées dans des écrins tendus de velours, toute une collection de vases ornementaux.
« Seigneur Hall, » demanda Cara. « Il y a un problème ?»«
Oui, » répondit Richard en jetant un coup d'œil derrière lui. « C'est l'air. L'air ne va pas. » Voyant l'expression à la fois perplexe et inquiète de Cara, il mesura à quel point sa déclaration pouvait être saugrenue. Pour Cara, cependant, les choses étaient d'une grande simplicité. Si le seigneur Hall parlait d'un problème, il y en avait un et sa vie risquait d'être menacée. D'un mouvement du poignet, la mort de Cite propulsa son agiel dans le creux de sa paume. Serrant fermement son arme magique, elle pivota sur elle-même, scrutant les ombres comme si un monstre pouvait à tout moment en jaillir.
« La bête ? » demanda-t-elle.
Richard n'avait pas encore pensé à cette éventualité. Le monstre, créé par les sœurs de l'obscurité captive de Jagang, était une menace permanente. Dans un passé récent, il s'était plusieurs fois matérialisé en un clin d'œil, comme s'il sortait de nulle part, ou de l'air lui-même. Hélas, Richard ne parvenait pas à définir précisément la menace. Pourtant, il aurait dû mettre le doigt dessus, lui semblait-il. Le phénomène lui était familier, du genre qu'on reconnaissait normalement. Sauf si son imagination lui jouait un tour.
« Non, » dit-il, « je doute que ce soit la bête. Ce n'est pas ce type de bizarrerie. Seigneur Hall, après toute la fatigue accumulée, vous venez de passer une bonne partie de la nuit à lire. Vous êtes peut-être épuisé, tout simplement. »
À certains moments, Richard se réveillait en sursaut quelques secondes après s'être assoupi, et il en restait désorienté et confus, comme sonné par les abominables cauchemars dont il ne parvenait jamais à se souvenir une fois lucide. Mais là, c'était différent. La sensation n'avait rien à voir et il aurait juré ne pas avoir somnolé. Si fatigué qu'il fût, il était bien trop anxieux pour dormir. La veille, il avait enfin réussi à convaincre ses compagnons que Callan existait bel et bien. Non, elle n'était pas le produit de son imagination, une bienveillante illusion censée adoucir ses derniers instants alors qu'il agonisait d'une blessure. Désormais, Richard pouvait compter sur l'aide de ses amis. Bien entendu, cela le rendait encore plus impatient de retrouver son épouse. Maintenant qu'il avait reconstitué une partie du puzzle, comment aurait-il pu perdre son temps à se reposer?
En interrogeant Tovi peu avant qu'elle meure, Nietzsche avait découvert comment quatre sœurs de l'obscurité, Ulyssia, Armina, Cecilia et Tovi justement, avaient jeté un sortilège nommé la chaîne de flammes. Grâce au pouvoir contenu dans un antique grimoire, un fléau s'était répandu partout. Le souvenir de Callan s'était effacé de toutes les mémoires, à part celle de Richard. L'épée de vérité avait garanti l'intégrité de la mémoire du sorcier. Hélas, au cours de sa quête, il avait dû se dessaisir de l'arme magique. Le sort d'oubli était une création des sorciers de l'ancien temps, désireux de passer inaperçus dans les rangs de l'ennemi. Utilisant la magie soustractive pour altérer la mémoire des autres, ils étaient parvenus à définir très précisément les cibles de la disparition mémorielle. Victimes d'une extraction quasi chirurgicale, les gens restructuraient spontanément leurs souvenirs pour boucher les trous consécutifs à l'opération. C'était bel et bon, mais les antiques sorciers, tout bien pesés, avaient conclu que de telles neutralisations risquaient de produire une chaîne d'événements de plus en plus incontrôlable. Selon certains théoriciens, le phénomène, qui se répandait un peu comme un incendie de savane, risquait de détruire le monde des vivants. Bien entendu, le projet chaîne de flammes en était resté au stade théorique. Les quatre sœurs de l'obscurité avaient osé l'impensable. Lancer le sort avec Callan pour cible. Détruire le monde des vivants ne les gênait pas. Normal, puisque c'était leur objectif suprême. Maintenant qu'il avait convaincu Nietzsche, Zed, Kara, Nathan et Anna qu'il n'était pas fou, le sorcier ne pouvait plus gaspiller son temps à dormir. Pour trouver Callan, il avait besoin d'aide, et celle de ses amis lui était enfin acquise. Sa femme représentait tout pour lui. Dès leur rencontre, son extraordinaire intelligence l'avait fasciné. Le souvenir de ses yeux verts, de son sourire et du contact de ses mains le hantait. À chaque minute, il se demandait s'il n'aurait pas pu faire plus pour la retrouver. Menait-il le combat avec assez d'énergie? Ne baissait-il pas parfois les bras trop vite? Alors que tout le monde avait oublié Callan, Richard ne pensait qu'à elle. En un sens, il était son unique lien avec le monde. S'il cessait de la garder vivante dans son esprit, ne risquait-elle pas de disparaître pour de bon? Certes, mais pour la sauver, il devait se concentrer parfois sur d'autres sujets, quitte à la repousser au second plan. Si difficile que ce fût, il n'y avait pas d'autre solution. « Toi, tu ne sens rien d'étrange ?» demanda Richard à Kara. « Nous sommes dans la forteresse du sorcier, seigneur. Tout est étrange ici. J'en ai la chair de poule en permanence. »« D'accord, mais ce n'est pas plus grave en ce moment ?» Pensive, la mort de Sith lissa d'une main la natte blonde qui pendait sur son épaule. « Non. »« Suis-moi, » dit soudain Richard en s'emparant d'une lampe. Il sortit de la petite salle et remonta un long couloir au sol couvert d'une multitude de tapis. On avait l'impression que cet endroit servait d'entrepôt dès que quelqu'un ne savait plus où ranger les tapis surnuméraires. Si les pièces du dessus étaient des plus classiques, aussi bien en ce qui concernait les motifs que les couleurs, celles qu'on apercevait tout en bas des piles arboraient des teintes criardes qui blessaient l'œil. Esthétique ou non, les tapis étouffaient les pas de Richard. Avec ses longues jambes, Kara n'avait aucune difficulté à suivre son maître tandis qu'il passait devant une enfilade de portes ouvertes donnant sur des pièces obscures. Des bibliothèques pour la plupart. Quelques rares pièces, joliment décorées, n'avaient aucun usage, sinon conduire à d'autres salles tout aussi inutiles. La forteresse du sorcier était un fantastique labyrinthe. À ce titre, il lui fallait ses impasses et ses chemins conçus pour tourner en rond. À une intersection, Richard s'engagea dans un couloir sur sa droite, dont les murs plâtrés, ornés de moulures géométriques, étaient passés au fil des siècles d'un blanc éclatant à un jaune presque doré. Dès qu'ils croisèrent un grand escalier de marbre, le sorcier entreprit de le descendre au pas de charge. « Où allons-nous ? » demanda Kara. À l'évidence, la question prit son seigneur au dépourvu. « Je n'en sais rien. » Le regard de la mort de Sith s'assombrit. « Vous avez l'intention de fouiller un complexe qui compte des milliers de salles ? Au hasard, alors que j'ai vu plus d'une montagne qui se sentirait toute petite comparée à la forteresse du sorcier ? Le problème est dans l'air, alors je le suis à la trace. » Vous pistez l'air? Demanda Kara, peu convaincue. Vous n'utilisez pas la magie en ce moment, pas vrai?
Kara, tu sais mieux que personne que je ne contrôle pas mon don. Même si je le voulais, je serais incapable de jeter un sort. De toute façon, il n'en était pas question. S'il recourait à la magie, la bête risquait de le repérer et il n'avait aucune envie que ça arrive. Toujours inquiète, la mort de Cite redoutait qu'il brave le danger une fois de trop, mais lorsqu'il était question de la bête, ça ne risquait pas d'arriver. Se concentrant sur le présent, Richard tenta de déterminer ce qui n'allait pas avec l'air. Cette fois, il cerna un peu mieux la question. C'était un peu comme pendant un orage, une sensation de tension et de menace imminente. Au pied de l'escalier, qui était devenu progressivement plus étroit, le sourcier et la mort de Cite déboulèrent dans un couloir sans ornement et au mur de pierre brute. Après avoir passé plusieurs intersections, Richard baissa les yeux sur un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans le sol. Dès qu'il se fut décidé à l'emprunter, Kara lui emboîta le pas. Au pied de ce second escalier, le sourcier et sa garde du corps traversèrent un étroit couloir à la voûte étayée par des planches de chêne, puis ils débouchèrent dans une salle ronde d'où partait une infinité de couloirs à l'entrée flanquée de majestueuses colonnes. Faisant le tour de la pièce, Richard s'arrêta devant chaque passage et l'éclaira avec sa lanterne. S'il n'était jamais venu dans cette salle, il n'eut aucun mal à déterminer que Kara et lui se trouvaient dans une section de la forteresse radicalement différente. Le genre de différence, justement, qui devait donner la chair de poule à Kara. Un des couloirs descendait plus abruptement que les autres. En fait, c'était une rampe. Mais pourquoi ne pas avoir opté pour un escalier? Dans le complexe, il y en avait des centaines de styles différents, comme si des architectes avaient eu une passion pour les marches.
« Par là !»
dit Richard à Kara avant de passer entre les colonnes. La rampe semblait vouloir descendre jusqu'au cœur même de la terre. Après une petite éternité, elle consentit pourtant à déboucher dans un couloir large d'une dizaine de pieds et haut d'à peine 7. Sur la gauche, une muraille rocheuse naturelle indiquait que ce passage avait été taillé dans les entrailles de la montagne. Sur la droite, d'énormes blocs de pierre formaient un mur solide mais rudimentaire. Là encore, la mort de Cite et son seigneur traversèrent une monotone succession de salles. Avec une lanterne pour seule source de lumière, ils ne distinguèrent pas grand-chose du décor. Richard comprit soudain pourquoi il s'était alarmé. L'air avait l'étrange consistance qui marquait la présence, à courte distance, de pratiques de la magie particulièrement puissantes. Il avait eu cette sensation en présence de ses formatrices, les sœurs Cecilia, Armina et Merissa. Mais surtout, il devait l'admettre, lorsque Nietzsche était près de lui. Parfois, l'air menaçait de s'embraser autour d'elle, tant elle avait de pouvoir. Mais jusque-là, le phénomène avait toujours été lié à la notion de proximité. C'était bien la première fois qu'il le percevait de loin. Avant même de voir la lumière qui sourdait d'une des salles, Richard reconnut la qualité explosive de son air. On eût dit que des étincelles s'apprêtaient à jaillir dans le couloir. L'immense double porte était ouverte, donnant accès à une bibliothèque chichement éclairée. L'endroit qu'il cherchait, Richard en aurait mis sa tête à couper. S'arrêtant sur le seuil de la pièce, il regarda à l'intérieur, les yeux ronds de surprise. Une lumière vacillante comme celle d'un orage jaillissait d'une dizaine de hautes fenêtres en arceaux. Alors que ces ouvertures occupaient tout le mur du fond, les autres étaient tapissées d'étagères lestées de livres et d'objets mystérieux. Des tentures de velours à franges de fil d'or protégeaient ces fenêtres. Pour l'heure, elles étaient tirées, laissant admirer des vitraux multicolores. Très épais, les petits carreaux de verre qui composaient ces mosaïques paraissaient s'embraser chaque fois que la lueur d'un éclair les transperçait. Tout autour de la pièce, des lanternes munies de déflecteurs fournissaient une lumière suffisante pour qu'on puisse lire les innombrables livres posés sur des lutrins ou des tables. À y regarder de plus près, les rayonnages ne contenaient pas tant de livres que ça. En revanche, l'exposition d'objets était impressionnante. Des carrés de tissu étincelants, soigneusement pliés,
d'énigmatiques spirales de fer, des fioles en verre émeraude, d'incompréhensibles assemblages de baguettes de bois, d'impressionnantes piles d'étuis à parchemin, d'antiques ossements, des crocs démesurés qui ne semblaient pas pouvoir appartenir à une créature réelle. Un incroyable inventaire d'artefacts aussi mystérieux qu'apparemment inutiles. Avec l'orage, la lumière fragmentée qui jaillissait des fenêtres laissait penser que la fin du monde ne tarderait plus.
« Zed, que fiches-tu donc ?»
demanda Richard.
« Seigneur Rahl, souffla Kara, j'ai peur que votre grand-père ait perdu la raison. »
Le vieux sorcier jeta un rapide coup d'œil aux deux importuns. Avec ses cheveux blancs en bataille et la tunique beaucoup trop grande qui lui conférait des allures d'épouvantail, il présentait un tableau des plus inquiétants, force était de l'admettre.
« Mon garçon, nous sommes un peu occupés pour l'instant. »
Au centre de la pièce, Nietzsche lévitait au-dessus d'une grande table. N'en croyant pas ses yeux, Richard battit des paupières, mais l'image resta telle qu'il l'avait découverte. Les pieds de son ami surplombaient la table de 10 bons pouces. Comme paralysé en plein vol, Nietzsche ne bougeait pas d'un cil. Si stupéfiante que fût cette scène, ce n'était pas la composante la plus choquante. Sur le plateau de la table, quelqu'un avait dessiné une grâce. Le symbole magique n'avait rien d'effrayant en soi, sauf qu'on l'avait tracé avec du sang. Comme un rideau enveloppant Nietzsche, des lignes immobiles lévitaient au-dessus de la grâce. Pour avoir souvent vu des sorciers ou des magiciennes dessiner un sortilège, Richard ne pouvait pas douter un instant de ce qu'il avait sous les yeux, mais il n'avait jamais rien aperçu qui ressemblât de près ou de loin à ce labyrinthe volant. Un sortilège complexe, dessiné en 3 dimensions et capable de violer la loi de la gravitation universelle. Incroyable! Au centre de cette structure géométrique, Nietzsche lévitait majestueusement, ses traits délicats aussi figés que ceux d'une statue. Elle avait un bras levé qui pendait contre son flanc, et les doigts de son autre main étaient largement écartés. Ses pieds, remarqua enfin Richard, ne flottaient pas au même niveau, mais à quelques pouces d'écart, comme si elle avait été pétrifiée au milieu d'un seau. Sa crinière blonde lévitait un peu au-dessus de ses épaules. À croire que... Oui, c'était ça. On eût dit que ses cheveux s'étaient soulevés tandis qu'elle sautait, se figeant alors qu'ils avaient commencé à redescendre vers leur position naturelle. Ultime, mais terrible détail, Nietzsche semblait plus morte que vive.